préserver les investissements malgré les difficultés budgétaires. Dumbéa et Païta ont adopté hier des budgets primitifs en baisse. Encourager la création d'entreprises innovantes, l'État et le gouvernement lancent le projet France 2030, doté de 182 millions de francs. Le Salon des femmes 18e édition a ouvert ses portes à la Maison des artisans. Il se poursuit jusqu'à dimanche. Le pape François est toujours hospitalisé, mais il enregistre un message pour les fidèles diffusé place Saint-Pierre. Sommet européen pour soutenir l'Ukraine et réarmer l'Europe. Les 27 adoptent le plan de la Commission pour booster les budgets défense. Et puis en sport, le début des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Bon résultat pour Lyon qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Steaua Bucarest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui Virginie Ruffnac.
Oui, Virginie Ruffnac, chef du groupe du Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera notre invité dans le magazine Transparence. Elle a, vous le savez, participé aux discussions entre le ministre des Outre-mer et les délégations calédoniennes. Nous l'interrogerons bien sûr sur cette séquence, mais aussi sur le document de synthèse présenté par l'État et sur les réactions qu'il a suscitées. Nous évoquerons également l'actualité des Républicains qui doivent prochainement élire leur président. On se retrouve tout à l'heure en compagnie de Virginie Ruffnac, juste après votre journal, Jean-François.
Et rendez-vous après à 16h45 pour le Club Politique.
Au sommaire de ce Club Politique, sans surprise, le bilan David de Manuel Valls avec l'analyse du document de synthèse sur les orientations proposées par le gouvernement. Et puis nous décrypterons là aussi les différentes réactions qu'il a suscitées, celles des partisans de la France, mais aussi celles du FLNKS ou encore la position du Rassemblement National, un Club Politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Justement, la visite du ministre des Outre-mer, Calédonie Ensemble, en a dressé le bilan ce matin. Le parti de Philippe Gomès salue la méthode Valls et souhaite l'émergence d'un consensus définitif pour, je cite, une souveraineté calédonienne refondée avec la France, Nicolas Legrand.
Oui, Calédonie Ensemble qui défend ce qu'on peut qualifier de troisième voie. Elle souhaite concilier les aspirations à la souveraineté externe sans remettre en cause pour autant le lien avec la France, conformément aux trois référendums, et la volonté de souveraineté interne, c'est-à-dire de donner plus de compétences aux provinces, sans remettre en cause le fait que la Nouvelle-Calédonie doit rester une et indivisible. Le parti estime que cet accord, qui vise à concilier les positions antagonistes, doit être trouvé rapidement pour permettre le redressement économique et social du territoire et dessiner un destin commun. Pour Calédonie Ensemble, c'est même soit un accord à tout prix, soit la garantie d'une guerre civile larvée dans la durée. Écoutez Philippe Dunoyer.
Un seul objectif, c'est de trouver un moyen pour parvenir à un accord. Ben nous, on pense qu'il y a effectivement des pistes, il y a déjà des convergences. Le sujet de la citoyenneté, et notamment du corps électoral, c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir objectivement converger. L'évolution, l'augmentation des compétences provinciales également, l'évolution de la gestion de la compétence relations extérieures de la même manière. On a des sujets qui feront partie de cet accord sur lequel il y a un chemin, il faut le dire. Il y a d'autres sujets sur lesquels on sent qu'il y a plus de retenue. Mais on n'a pas de choix. On est obligé de parvenir à un accord, là, dans les prochaines semaines, un projet qui est élaboré entre formations politiques de sensibilités différentes. Et donc, il y a forcément une très large majorité qui le porte. C'est l'intérêt du référendum de projet qui permettrait d'aboutir à un oui collectif beaucoup plus large. C'est vraiment là aussi une différence, elle n'est pas que sémantique, de stratégie qui est nécessaire.
Dans le détail, Calédonie Ensemble avance quelques pistes pour poursuivre l'émancipation du territoire. Le parti estime que la loi fondamentale proposée par Manuel Valls serait une petite constitution et que le Congrès pourrait être capable de la modifier, contrairement à la loi organique. Calédonie Ensemble propose aussi que la Nouvelle-Calédonie voit sa compétence relations extérieures élargie et puisse signer des traités avec tous les États du monde, à l'exception des accords de sécurité et de défense, et ce qui irait à l'encontre de la République. Et enfin, il propose de former les Calédoniens en compétences régaliennes grâce à un dispositif de type cadre avenir dédié. Nous avons donc demandé à Philippe Dunoyer si ce consensus définitif pour une souveraineté calédonienne refondée avec la France n'était pas en quelque sorte l'indépendance association. Écoutez sa réponse.
Il y a beaucoup de termes qui font très peur. Historiquement, ils ont pu être chargés. Plus récemment, ils ont pu renvoyer à des réalités. La difficulté, en fait, c'est qu'il n'y a réellement aucun terme qui définisse, un, le statut actuel de la Calédonie, qui est une collectivité sui generis, comme disent les latinistes. Il n'y a aucun autre modèle qui correspond au nôtre. Et je suis certain que le prochain accord aboutira à une organisation qui ne correspond à rien qui existe également ailleurs. Donc il ne faut pas se faire peur avec un terme ou un autre, dont d'ailleurs personne ne partage la même définition. Il faut juste avancer. Et à partir du moment où l'accord sera défini, dans le cadre qui a été posé par l'État, eh bien, il y aura des spécialistes qui diront ben, « ça s'appellera comme ça ». Et ce ne sera pas ça qui sera le plus important. Ce qui sera le plus important, c'est d'avoir convergé, d'avoir trouvé cet accord définitif.
Et sur le volet économique, enfin, Calédonie Ensemble souhaite que l'État s'engage à soutenir financièrement financièrement la Nouvelle-Calédonie et que cette aide soit garantie par la loi constitutionnelle. Le parti de Philippe Gomès qui souhaite que les formations politiques continuent de discuter sur ces différents points avant le retour du ministre des Outre-mer à Nouméa d'ici 2 semaines.
Revenons maintenant sur l'adoption des budgets primitifs. Hier soir, par les conseils municipaux de Dembéa et de Païta, le budget particulièrement contraint a été adopté par les élus de Dembéa hier, avec l'ensemble des groupes, avec un accent mis sur la reconstruction, la sécurité et le vivre ensemble, Charlotte Coulson.
17 délibérations étaient à l'ordre du jour et en ce début d'année, elles portaient majoritairement sur le budget 2025 de la commune. Après les débats d'orientation budgétaire le mois dernier, les dépenses ont cette fois été plus détaillées, puis votées et adoptées. Un budget primitif de 5 milliards et 288 millions de francs, en baisse de près de 22% par rapport à l'année dernière, soit quasiment 1 milliard et 400 millions de francs de moins. Malgré tout, la ville assumera bien sûr ses missions de service public en soutenant notamment la reconstruction et la sécurité, comme nous détaille le maire de la ville, Yoann Lecourieux.
Ah ben c'est un effort à tous les niveaux, c'est un effort sur la masse salariale, c'est les départs qui ne sont pas remplacés tout de suite, c'est des non-reconductions de CDD, c'est un effort aussi sur les charges de fonctionnement de la commune, sur les charges aussi d'animation et autres, mais on a essayé de maintenir quand même un programme satisfaisant. Nous avons essayé de maintenir aussi un niveau d'investissement satisfaisant pour la qualité de vie des Dembéens et pour soutenir aussi le monde économique. Renforcer donc la reconstruction avec bien sûr la priorité sur les établissements scolaires, sur les caméras de vidéosurveillance et sur l'éclairage public qui donc favorise la sécurité publique au sein de la ville de Dembéa.
Et un accent est également placé sur le vivre ensemble via le soutien aux activités de la ville telles que l'omelette géante ou encore les rendez-vous du Big Up Spot. Si certaines de ces dépenses ont pu être maintenues, l'état des finances reste critique, comme tenait à le rappeler Cynthia Jean, membre du groupe Génération Dembéa.
La ville de Dembéa n'a plus d'argent en caisse. C'est bien sûr une des conséquences directes des émeutes du 13 mai. Et les conséquences vont être brutales pour les Dembéens, puisque finalement un budget avec une telle baisse, ça veut dire autant d'argent en moins pour les entreprises sous-traitantes de la ville. Et puis des coupes aussi, des coupes directes. Moins d'argent pour le SMTU et les bus, moins d'argent pour le CCAS, donc moins de paniers alimentaires. Et puis un budget d'investissement consacré quasi exclusivement aux reconstructions, d'écoles, de centres culturels. Et donc les émeutes ont fait de nous finalement des mendiants, et c'est l'État qui est obligé de venir à la rescousse sans qu'on ait aucune autre solution dans la commune.
Et de son côté, le groupe Dembéa Intègre a également voté le budget en saluant notamment l'accent mis sur l'aspect sécuritaire. Malgré tout, selon Xavier Rossard, membre du groupe, il y a certaines dépenses qui pourraient être évitées.
Je considère que financer à hauteur d'1,1 million le comité de jumelage de Dembéa pour permettre à 15 personnes de l'étranger de venir en Nouvelle-Calédonie lors de la fête de la ville, ça me paraît aberrant. On aurait pu utiliser ce 1,1 million d'une autre manière. Et plus largement sur le budget, bien sûr notre groupe a voté ce budget qui est contraint puisqu'on n'a pas vraiment le choix avec les contraintes budgétaires qui sont celles de la Nouvelle-Calédonie. Juste faire un focus sur les demandes que nous avions formulées lors du débat d'orientation budgétaire sur des moyens alloués à la sécurité et donc à la police municipale, au renforcement des caméras de vidéoprotection. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans ce budget, c'est pour ça qu'on soutient ce budget.
Et à noter que ce budget principal d'un peu plus de 5 milliards de francs ne subventionne pas les budgets annexes que sont la gestion des déchets, de l'eau ou encore l'assainissement.
La commune de Païta a également adopté son budget primitif hier soir à l'unanimité. Il est en nette baisse par rapport à celui de l'an dernier. Après une année 2024 marquée par des exactions et des perspectives économiques pour 2025 contraintes, ce budget s'élève à 4 milliards 100 millions. Il est en baisse de 800 millions par rapport à l'an passé. Avec toutefois des efforts qui sont faits par la collectivité sur la masse salariale. Pas de remplacement de postes vacants ou de CDD. Une diminution aussi des moyens mis à la disposition des services de la commune. Néanmoins, des projets et des travaux vont être réalisés cette année, souligne Antoine Romain, directeur de cabinet du maire de Païta.
On peut citer notamment des acquisitions de matériel. Alors c'est des acquisitions de matériel technique qui vont nous permettre malgré tout de faire quelques économies en fonctionnement. On va continuer, tant que faire se peut, une partie de travaux routiers, parce que le réseau routier de la commune est effectivement dans un état assez difficile. On va enfin pouvoir acquérir une partie du terrain de la gendarmerie nationale à la sortie du village pour pouvoir réaliser, alors on le souhaite dans les meilleurs délais, de faire un giratoire au niveau de ce carrefour, qui est un carrefour effectivement difficile, où aux heures de pointe, que ce soit d'ailleurs le matin ou le soir, il y a des embouteillages énormes pour les gens qui rentrent ou qui sortent de Païta.
Antoine Romain, le directeur de cabinet du maire de Païta, interrogé par Léo Fichou.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier. 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la fonction publique doit participer à l'effort collectif de réduction des dépenses de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 14% à ne pas partager cet avis. Et puis notre question du jour, pensez-vous, comme l'a déclaré le président de la République, que la France doit se réarmer et augmenter le budget des armées? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La Nouvelle-Calédonie et l'État relancent l'innovation dans le cadre du projet France 2030. 182 millions de francs seront alloués à des entreprises calédoniennes portant un projet innovant, Charlotte.
Le programme d'innovation Avenir numéro 3 a été clôturé l'année dernière sur le territoire. 11 lauréats avaient à l'époque pu bénéficier d'aides d'un montant total de 114 millions de francs. Et cette année, la continuité du projet via France 2030 prend une toute autre portée dans le contexte de crise que traverse la Calédonie. C'est une opportunité, selon le haut-commissaire Louis Lefranc.
En fait, c'est une lueur d'espoir pour moi, France 2030. Voilà, il y a plusieurs programmes. C'est échelonné dans le temps. C'est l'accompagnement financier qui peut permettre aux start-upers ou aux jeunes chefs d'entreprise qui veulent se lancer mais qui manquent de moyens financiers. Il faudra quand même qu'il ait un apport. Hein. C'est un complément financier qui permet à son projet, qui est innovant, de se développer. C'est ça l'idée. Donc, c'est une lueur d'espoir pour la Nouvelle-Calédonie parce que tous les jours... On parle de la crise, des effets de la crise, etc., etc. On parle de tas de choses, mais ce n'est pas très orienté vers l'économie et vers l'avenir. Ce n'est pas des gros projets, c'est des petits projets. Ça permettra de créer de l'activité dans des secteurs qui ont été inexplorés et donc de créer de l'emploi, créer de la richesse pour ce territoire et l'aider à se relever.
Et le projet France 2030, c'est donc une initiative nationale lancée par le président Emmanuel Macron. Le principe est d'accompagner des très petites ou des petites entreprises dans la concrétisation de leurs projets. L'État ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie investissent chacun un peu plus de 90 millions de francs pour une enveloppe totale de 180 millions de francs dont pourront disposer les entreprises répondant aux appels à projets. Le tout chaperonné par la Banque publique d'investissement, la BPI. Au niveau du gouvernement, c'est Pételo Sao en charge de l'innovation technologique qui suit le projet.
L'État et le gouvernement sont associés. Les conventions ont été signées en 2023 et en 2024. Donc aujourd'hui, c'est la continuité de ces conventions avec BPI France qui sera l'opérateur. Donc lui, il s'occupera de la viabilité des projets. Et ensuite, ce sera le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, associé avec les services de l'État, qui décideront des projets qui seront soutenus. Mais l'idée, c'est vraiment de soutenir des porteurs de projets qui soient innovants et avec impact social immédiat. Parce que c'est important d'avoir des porteurs de projets qui soient en relation avec les attentes des Calédoniens dans leur quotidien d'aujourd'hui. On parle souvent d'innovation et on imagine l'innovation dans le numérique, dans l'informatique, mais ce n'est pas seulement cela. Voilà les sortes de projets d'innovation qu'on espère soutenir.
Et cette année, ce sont deux appels à projets qui sont lancés, le projet innovation et le projet filière. Parmi les entreprises qui répondront à l'appel, Artoflow, une application mobile lancée en 2023 grâce au programme d'innovation à venir. Grou Lévis est le collaborateur de la société.
Donc Artoflow, c'est une application qui sert à valoriser surtout l'art et la culture et les artistes ici sur le territoire. Donc elle a été créée vraiment ça pour utiliser le numérique comme un nouveau canal de médiation au niveau de tout ce qui est discipline artistique. Nous, on s'est retrouvés avec le pays à trois, c'est surtout qu'on avait besoin de financement pour lancer l'application. Donc il fallait trouver 12 millions. On a pu bénéficier de 6 millions du pays à trois et 6 millions en apport personnel pour pouvoir lancer l'application. Maintenant, nous, les perspectives, c'est de continuer de développer. Donc le pays à quatre va permettre ça, d'exporter Artoflow à l'extérieur, de rendre l'application plus performante en intégrant aussi l'IA et puis la data à l'intérieur.
Et les candidats ont jusque fin 2026 pour postuler à France 2030. Pour cela, il faut déposer son dossier sur le site france2030regionalise.gouv.nc.
À 11h45, il est l'heure de marquer une première pause dans ce journal avant de se retrouver pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Osez devenir. Du 7 au 9 mars, rendez-vous à la Maison des Artisans pour la 18e édition du Salon des Femmes. Venez découvrir plus de 70 exposants et profitez de nombreuses animations gratuites tout au long du week-end. Cette année, de nouveaux ateliers sur l'émancipation des femmes seront organisés en partenariat avec la province sud. Témoignages, expositions, tables rondes ou encore des courts-métrages. Programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
Retrouvez votre marque You by Kotex au Salon de la Femme du 7 au 9 mars à la Maison des Artisans. Profitez d'une offre spéciale et faites tourner la roue de la chance pour gagner des surprises. Plus d'informations sur clocal.nc.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
En bref, notez que la cour d'assises de Nouméa juge depuis hier un homme de 38 ans accusé d'avoir tué son voisin d'un coup de fusil le 23 juin 2022 à Saint-Louis, un drame sur fond d'alcool. Ce matin, le ministère public a requis 25 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu en début d'après-midi. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présente les prochaines étapes de sa stratégie pour lutter contre le changement climatique. À cette occasion, Léana Colombo, un partenariat a été signé ce matin entre l'institution et l'AFD.
Une collaboration établie sur 2 ans et d'un montant de 24 millions de francs. Ce soutien permettra de récolter des données et de produire des simulations climatiques sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2100. Ces prévisions permettront une meilleure connaissance de l'évolution du climat et donc de mieux s'adapter, explique Alexandre Pelletier, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est quelles sont les zones qui vont être le plus exposées. Est-ce que la côte est comme la côte ouest vont être exposées de la même façon en termes de précipitations, mais aussi en termes de température? Comment tout ça va évoluer? Comment quelqu'un qui va travailler en Nouvelle-Calédonie, quelqu'un qui va cultiver son champ en 2050, en 2100, quelles sont les conditions climatiques qu'il va rencontrer, qu'il travaille sur la côte ouest ou sur la côte est? Quelles sont les variétés culturelles d'igname, de taro qu'il va falloir mettre en avant, justement pour être adapté au climat de demain?
Depuis quelques années, la Nouvelle-Calédonie s'investit dans les mesures contre le changement climatique en se dotant notamment d'un cadre d'action et de gouvernance. Un premier forum calédonien sur le sujet s'est même tenu en avril dernier, réunissant plus de 400 participants. Une thématique importante et d'actualité selon le membre du gouvernement chargé de la transition écologique, Jérémy Katidjomoni.
La crise économique, la crise sociale n'a pas effacé la crise climatique sur laquelle la Nouvelle-Calédonie doit faire face. Donc c'est pour ça que dès le mois prochain sera présenté au Congrès afin qu'ils puissent la voter, la stratégie calédonienne du changement climatique, et afin de la rendre opérationnelle grâce à Météo France, à l'IRD et surtout l'AFD qui nous finance. On a un groupe d'experts calédoniens qui connaissent bien le terrain, qui vont donc accompagner l'ensemble des directions de la Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans pour que cette stratégie calédonienne du changement climatique puisse être très rapidement opérationnelle avec des priorités, des actions qui sont clairement définies et partagées par tous. C'est des sujets qui sont d'actualité et sur lesquels le gouvernement d'Alcide Ponga s'investit.
Une stratégie sur le climat qui rentre dans le cadre du projet CLIPSA pour Climat du Pacifique, savoirs locaux et stratégie d'adaptation.
Les femmes entrepreneurs mises en avant à l'occasion du Salon des Femmes. Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, la Maison des Artisans à Nouville accueille ce 18e salon. Il est organisé par Pacific Fair. La province sud s'est associée à l'événement pour proposer des conférences, des expositions qui viennent s'ajouter aux nombreux stands de bijoux, vêtements, cosmétiques ou de mets traditionnels. Une mise en avant de l'artisanat féminin important pour les visiteurs.
C'est pas facile, hein, c'est difficile et je comprends maintenant pourquoi c'est cher, parce que c'est du travail. Hein.
La femme, elle se met pas forcément en avant. Elle a toujours été derrière, ça a toujours été l'homme qui était toujours devant.
Comme il y a quand même énormément d'inégalités entre l'homme et la femme, même au niveau des salaires et du travail, je trouve que c'est bien d'avoir des journées comme ça où on peut les mettre en avant leur travail et ce qu'elles savent faire et leur savoir-faire et leur savoir.
Il faut mettre des femmes à l'honneur. Hein.
Et alors, est-ce que vous voyez de belles choses?
Oui, de très très belles choses. Très belles, que ce soit des colliers, que ce soit des robes, enfin tout ce qui représente la femme, de toute manière, c'est toujours très joli. C'est très très bien ce salon, ils font plein de choses, c'est agréable, j'y viens régulièrement de toute manière.
Et pour les amateurs, un défilé de mode sera proposé par le magazine Elle Calédonie en partenariat avec le comité Miss Nouvelle-Calédonie. Ce sera à 17h. 6 mannequins, dont 3 Miss Calédonie, mettront en avant les tendances de cette année. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et attention, c'est à 14h qu'aura lieu cet après-midi le tirage au sort de notre grand jeu Chance. Si vous n'avez pas encore envoyé votre SMS au 4020, faites-le dès maintenant. Vous pouvez même le faire plusieurs fois. Et ça vaut le coup, Thierry, parce qu'il y a un magnifique cadeau à gagner.
Oui, c'est un magnifique collier en perles de Tahiti, un cadeau d'une valeur de 120 000 francs offert par Créator.
Voilà, donc n'oubliez pas, envoyez chance au 40-20 dès maintenant, vous jouez autant de fois que vous le voulez, bien évidemment, ce qui augmente vos chances d'être tiré au sort. Tirage au sort, je vous le rappelle, à 14h cet après-midi. L'actualité dans la région et Alfred se déplace plus lentement que prévu. Le cyclone tropical menace toujours la Sunshine Coast australienne, mais il n'a pas encore touché terre. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Alfred se fait attendre. Selon le bureau météo, il se trouvait ce matin à 195 km à l'est de Brisbane et 180 km au nord-est de la Gold Coast. D'une pression au centre de 981 hectopascal, il continuait de se déplacer vers l'ouest-sud-ouest à 3 km/h et générait sur son passage des pluies torrentielles et des vents de 95 km/h avec des rafales à 130 km/h. Toujours selon le bureau météo, il devrait toucher terre la nuit prochaine ou dans la matinée de demain entre la Sunshine et la Gold Coast. Les millions de personnes qui y résident, y compris les habitants de Brisbane et du nord-est du New South Wales, ont donc été exhortés à rester chez eux. Des vagues supérieures à 12 mètres ont été signalées au large de la Gold Coast, des évacuations préventives continuent et d'entières localités sont déjà privées d'électricité. Tous les services d'urgence sont mobilisés et l'armée se tient prête à intervenir. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h50 et 51 minutes sur Radio Rythme Bleu. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde. Nous prendrons notamment des nouvelles de la santé du pape qui a enregistré un message pour les fidèles.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Préparez votre rentrée en toute sérénité avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. Le Toyota Raize à partir de 29 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross hybride à partir de 49 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota RAV4 hybride à partir de 55 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota Hilux à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Profitez des offres rentrées et roulez en toute tranquillité avec Toyota. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 22 février au 23 mars, transformez des petits prix en grand plaisir avec notre table et ses deux chaises de balcon tropique à 6 990 francs seulement. Alors profitez-en pour aménager votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Et d'abord des nouvelles du pape François, hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie. Son état de santé est stable. Il n'a pas fait de nouvelles crises respiratoires et il a enregistré un message pour les fidèles diffusé sur la place Saint-Pierre de Rome.
Je vous remercie du fond du cœur pour vos prières pour ma santé depuis la place Saint-Pierre. Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous protège. Merci.
Voilà donc pour ce message enregistré par le pape François qui est donc toujours hospitalisé à la clinique Gemelli de Rome. Les 27 pays de l'Union européenne réunis en sommet extraordinaire en présence du président ukrainien Zelensky. Ils ont parlé du soutien de l'Ukraine et du réarmement de l'Europe et sur ce point, ils ont adopté le plan de la Commission européenne pour muscler la défense. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le point d'accord entre les 27 porte sur la flexibilité à mettre en place pour permettre aux États d'emprunter afin d'augmenter leurs dépenses militaires. Dépenses qui ne seront par exemple pas concernées par la fameuse règle des 3% de déficit autorisée par Bruxelles. C'est le sens des propositions de la Commission européenne qui devrait permettre de mobiliser 800 milliards d'euros dans les prochaines années, des sommes qui proviendront des budgets nationaux à hauteur de 650 milliards. Les 150 milliards restants prendront eux la forme de prêts garantis par l'Europe et accordés aux États à des conditions préférentielles. Ici à Bruxelles, les dirigeants parlent d'un premier pas vers une défense européenne actée ce soir à l'unanimité. En revanche, le deuxième volet de ce sommet, celui consacré au soutien à l'Ukraine, est validé par 26 pays sur 27. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est le seul à s'opposer à une nouvelle aide financière pour Kiev, lui qui plaide pour un dialogue direct avec la Russie.
Et de son côté, la France veut augmenter son budget défense, mais sans augmentation d'impôts, a précisé le chef de l'État dans son allocution hier matin. L'équation est difficile, d'autant plus que le déficit public se monte à 3200 milliards d'euros. Barthélémy Philippe.
Plusieurs options existent pour porter les dépenses militaires de 60 milliards d'euros aujourd'hui à 100 milliards d'euros en un temps record. La France va bénéficier de l'assouplissement des règles budgétaires européennes, ce qu'Emmanuel Macron a rappelé lors de son allocution hier soir.
Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit.
La France va pouvoir laisser filer sa dette et son déficit public qui culmine déjà à 6% du PIB sans s'exposer à des sanctions de la Commission européenne. Mais elle reste sous la menace d'une réaction des marchés financiers. Si les taux d'intérêt augmentent, la charge de la dette, 55 milliards d'euros cette année, pourrait vite devenir insoutenable. Activer le seul levier de la dette pour accroître le financement de l'industrie de défense n'est donc pas viable. C'est pourquoi le gouvernement envisage de mobiliser l'épargne des Français via le livret A ou un nouveau produit d'épargne dédié. Les banques et les compagnies d'assurance seront aussi sollicitées et le budget 2026 pourrait être le théâtre d'arbitrage douloureux sur la dépense publique, notamment en ce qui concerne la sphère sociale qui absorbe un tiers du PIB.
L'influenceur algérien Doualemn, condamné à 5 mois de prison avec sursis, il avait appelé sur les réseaux sociaux à la violence à l'encontre d'un opposant au régime algérien. Il a été condamné pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Le ministre de la Justice, lui, poursuit sa volonté d'isoler les narcotrafiquants et les détenus les plus dangereux pour purger leur peine. Gérald Darmanin a annoncé que les deux premières prisons pour accueillir les 100 premiers détenus seraient celles de Velin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Jean-Baptiste Marty.
Pour les deux établissements pénitentiaires, tout se fera en 3 étapes. D'abord, Velin-le-Vieil. Dès la semaine prochaine, la prison va être vidée de ses détenus pour être mis dans un autre établissement, tous, sauf ceux du quartier de radicalisation comme Salah Abdeslam. 2e étape, à partir d'avril et durant 1 mois et demi, des travaux seront effectués, par exemple poser des doubles grillages ou encore installer des brouilleurs de drones et de téléphones portables. Dans le même temps, du personnel plus qualifié sera formé comme des ERIS, l'unité d'élite dans les prisons. Enfin, 3e et dernière étape, à partir de juin, le transfèrement des narcotrafiquants vers l'établissement. Objectif que les 100 y soient au 31 juillet. Pour Condé-sur-Sarthe, même schéma, mais avec un calendrier plus tardif étalé jusqu'en octobre prochain. Une fois transféré, chaque détenu sera enfermé dans une cellule seule. À l'intérieur, un téléphone fixe dont l'usage sera limité à 3 fois 2 heures par semaine. Seule sortie de la cellule, les parloirs avec fouille systématique à la fin et les promenades 2 fois par jour, des déplacements qui se feront menottés et escortés par au moins 2 surveillants.
Il est 11h57, il nous reste à parler sport, ce sera après la dernière pause de ce journal, ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Découvrez la nouvelle Peugeot 2008 à un prix exceptionnel. Encore plus moderne, plus audacieuse et toujours plus irrésistible. La nouvelle Peugeot 2008 vous attend. À partir de 2 695 000 francs seulement, offrez-vous un SUV au design affirmé. Avec une nouvelle calandre inédite et élargie pour une posture plus puissante. Une signature lumineuse avant et arrière repensée pour un look encore plus audacieux. De nouvelles jantes en alliage qui subliment son allure. La nouvelle Peugeot 2008 à partir de 2 695 000 francs seulement. Au village automobile PK4 Nouméa et NC Motors connaît. Offre valable jusqu'au 31 mars 2025, voire conditions en concession dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Allez, on va commencer par le football, Léo Fichou, et les 8e de finale aller de la Ligue Europa ce matin.
Il reste encore un club français en lice, l'Olympique Lyonnais, et bonne opération pour les joueurs de Paolo Fonseca qui sont allés s'imposer 3-1 sur la pelouse du Steaua Bucarest grâce notamment à un doublé en toute fin de rencontre, 86e 89e minute de jeu du Belge Malik Fofana. Le match retour aura lieu vendredi prochain.
On passe au tennis avec la suite du premier tour de l'Open d'Indian Wells aux États-Unis et 5 Français sur les cours aujourd'hui.
On retrouve Gaël Monfils, Hugo Gaston, Arthur Hinderknecht, Quentin Alice et puis Benjamin Bonzi, ce dernier qui s'est malheureusement incliné en 3-7 contre l'Américain Jenson Brooksby. Au 2e tour, on retrouvera d'ores et déjà Giovanni Mpetit-Péricard, Corentin Moutet, Hugo Humbert et Arthur Fils.
Le handball maintenant, et la Calédonienne Suzanne Wojcicki et l'équipe de France se sont imposés sur l'Allemagne ce matin.
Premier match d'une double confrontation amicale, les Bleus largement en tête à la pause, 18-10, ont vu leur adversaire revenir en seconde période, mais les coéquipiers de Suzanne Wojcicki ont su garder leur avance. Score final 28-25. La Calédonienne était titulaire et elle a marqué son premier but sous le maillot tricolore. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour la seconde confrontation entre les Bleus et l'Allemagne.
Et puis on termine avec du cricket et la première édition d'un tournoi international féminin à Nouméa. L'équipe de France, composée à 100% de joueuses calédoniennes, sera opposée à des formations de Fidji, de Samoa et du Vanuatu.
Oui, un tournoi qui se déroulera de lundi à vendredi sur le stade Ndu et une étape majeure majeur dans le développement du cricket féminin sur la scène internationale en vue forcément des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu d'abord à Los Angeles en 2028, puis dans la région à Brisbane en 2032. L'équipe de France pour ce tournoi international à Nouméa sera effectivement composée de 14 joueuses calédoniennes et de 2 coachs du territoire. Une opportunité de taille pour les pratiquantes locales, mais aussi pour France Cricket. On écoute son président, Prebaragaran Balan.
C'est une grande opportunité. Et nous, avec la Calédonie, vous savez, donc voilà, aujourd'hui, pour nous, on peut venir piocher directement, donc, vous savez, donc, dans le vivier Nouvelle-Calédonienne. Comme je disais, vous savez, on a une grande chance qu'ils sont tous français. Donc c'est ça qui est vachement important pour nous. L'avantage qu'on a avec la Nouvelle-Calédonie, la proximité avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, où le cricket est sport professionnel. On va dire, comme on parlait de Brisbane 32, ce sera avec des Calédoniens et des Calédoniennes. Moi, je vais être franc, je pense que sans eux, on ne gagnera pas. Si elle est médaillable, ce sera avec les Calédoniens. S'il n'y a pas les Calédoniens, on n'aura pas ce sera pas médaillable.
La Nouvelle-Calédonie, qui est un véritable vivier de joueuses et de joueurs de cricket, le territoire compte pas moins de 47 clubs affiliés à France Cricket et environ 2300 licenciés contre seulement 300 en métropole.
Midi 1, c'est la fin de ce journal.